Le texte de la prédication aujourd'hui nous est proposé par notre fédération et c'est Patrick Payeux, le directeur de la Belge Solidarité, qui en est l'auteur. Je me permettrai simplement, ça et là, quelques digressions pour souligner tel ou tel point. Et donc le thème, c'est « Le social peut-il impacter la société ?» Et en préambule, le texte qui nous est proposé se trouve dans les Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 36 à 43. Il y avait à Joppé une femme disciple nommée Tabitha, ou selon la traduction d'Orca en grec, elle faisait beaucoup d'œuvres bonnes et d'actes de compassion. Ces jours-là, elle tomba malade et mourut. On la lava et on la mit dans une chambre à l'étage. Les disciples, ayant appris que Pierre se trouvait à Lydda, qui est près de Joppé, ils envoyèrent deux hommes le supplier, « Ne tarde pas à venir chez nous. » Pierre se leva et partit avec eux. Lorsqu'il fut arrivé, on le fit monter dans la chambre à l'étage. Toutes les veuves vinrent le trouver en pleurant. Elles lui montraient les tuniques et les vêtements que Dorca avait faits lorsqu'elle était avec elle. Pierre chassa tout le monde dehors et s'agenouilla et pria. Après quoi, elle se tourna vers le corps et dit, « Tabitha, lève-toi. » Alors, elle ouvrit les yeux et voyant Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et il la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup se mirent à croire au Seigneur. Il demeura bien des jours à Joppé chez un certain Simon qui était tanneur. Et donc, il est question d'une femme dont on ne parle qu'une seule fois dans la Bible. On sait peu de choses sur elle. Son nom, Tabitha, qui signifie Dorca en grec, c'est-à-dire gazelle. Et en dehors de ça, on sait qu'il nous est dit, ce qui est souligné un peu en jaune ici, que c'est une disciple du Seigneur et qu'elle accomplit diverses œuvres. Comme on le voit dans les parties jaunes, hein, diverses œuvres et actes de compassion, où les tuniques, les vêtements que Dorca faisait quand elle était avec ses femmes veuves. Il apparaît aussi que sa disparition suscite un grand émoi parmi les veuves qui ont probablement grandement bénéficié de son action sociale. Les veuves de cette époque, subissent de plein fouet la pauvreté au décès de leur conjoint, si elles n'ont pas une famille pour les prendre en charge. Paul les appelle les veuves vraiment veuves, les veuves qui n'ont pas de famille ou que leur famille ne prend pas en charge. Et en ce dimanche des solidarités, la question qui nous est posée est la suivante. Les actions sociales réalisées par les chrétiens peuvent-elles avoir un impact sur la société ? Cette question a-t-elle un sens? Y a-t-il des exemples historiques qui illustrent cela? La parole de Dieu va-t-elle également dans ce sens? Concernant ce dernier point, une étude biblique de base suffirait à nous convaincre de la nécessité, pour ne pas dire de l'obligation, d'œuvre sociale, c'est-à-dire d'actes bons envers le prochain. Car c'est bien de cela qu'il s'agit quand on parle d'œuvre sociale. Et cette même étude biblique nous amènerait très vite à ce fondement de la foi très prisé par les protestants que nous sommes, sola gratia, la grâce seule, qui nous rappelle que ce ne sont pas nos œuvres qui nous sauvent, mais notre foi, nous le proclamons. Attardons-nous, ce sera peut-être ma première digression, attardons-nous quelques instants sur ce point. S'agissant de notre salut, bien entendu que nos œuvres ne nous sont d'aucun secours. La seule œuvre qui compte est le sacrifice que Jésus a accompli sur la croix et dont nous nous saisissons par la foi. Mais ne sommes-nous pas venus à la foi, la plupart d'entre nous, sous l'effet des œuvres d'autres personnes qui ont agi envers nous de diverses manières, par le témoignage en parole, bien sûr, mais aussi en acte, par la compassion, l'écoute, le partage, une prière assidue. Non, nos œuvres n'agissent pas pour notre salut, mais ne contribuent-elles pas, de près ou de loin, au salut des autres ? Nos œuvres ne sont pas pour nous. Elles sont pour notre Seigneur et pour ceux qu'il place sur notre route. Et c'est bien là le sens de l'interpellation de Jacques, l'auteur de l'Épître, qui semble outré de constater que les œuvres sociales apparaissent à certains croyants comme une option qui ne les concernerait pas tous. Toi, tu as la foi, moi j'ai les œuvres, entend-il autour de lui. Mes frères et sœurs, leur répond-il, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ? Cette foi peut-elle le sauver ? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture chaque jour, et que l'un de vous leur dise « Partez en paix, mettez-vous au chaud, rassasiez-vous », sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il ? Il en va de même pour la foi, si elle ne produit pas d'œuvres, elle est morte en elle-même. Ce sont les paroles de Jacques. Et le grec dit textuellement, si elle ne produit pas d'œuvre, si elle est textuellement improductive. Si la foi dont nous nous réclamons est incapable de produire la moindre action concrète, en quoi serait-elle en mesure de produire une action de salut pour nos âmes ? Et en fait, prenant l'exact opposé, Jacques affirme, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Tout ceci dit autrement, la foi sans les œuvres, ça n'est pas la foi. Ou en tout cas, ça n'est pas encore la foi. Par contre, la foi authentique produira inévitablement des œuvres, des actes qui seront œuvres de foi. Nous avons aussi un modèle en la personne de Jésus. N'aurait-il pas tout aussi bien accompli sa mission rédemptrice en acceptant le sacrifice demandé par le Père, tout en se donnant beaucoup moins de peine au quotidien pour faire du bien aux hommes qu'il croisait ? Est-ce que ses actions au quotidien ajoutaient quoi que ce soit à la qualité de sa mission salvatrice ? Non, bien entendu. Mais par ses œuvres, il a touché personnellement un grand nombre de gens qui n'ont pu échapper à l'interrogation sur les raisons de tant d'amour. La vie éternelle qu'il nous promet est attestée par sa compassion pour notre condition humaine, par les guérisons physiques et spirituelles qu'il a accomplies, par ses récits de résurrection accomplis par lui-même ou par les apôtres, comme c'est le cas ici, dont nous avons le témoignage. À qui profite la résurrection de Dorcas ? À Dorcas ? Non. Aux veuves, bien sûr. Et à toutes ces personnes qui sont là à constater ce miracle fabuleux qu'est la résurrection de Dorcas et à qui elle ne manquera pas de continuer à faire du bien. Nous trouvons dans le texte que nous avons lu une belle acception du terme « acte de compassion ». Vous le trouvez à la troisième ligne. Œuvre sociale, acte de compassion. Quand l'Église parle de social, elle parle d'acte de compassion envers le prochain. N'est-ce pas là, après celui d'aimer Dieu, le plus grand des commandements, tellement important et fondamental qu'il est élevé à l'égal du premier ? La Bible va faire un va-et-vient permanent entre foi et œuvre. Et des théologiens ont travaillé toute leur vie sur ce thème. Donc nous ne nous avisons pas de critiquer ceux qui travaillent dans les œuvres sociales et nous n'opposons pas œuvre sociale et témoignage de foi. Rappelons-nous encore une parole de l'Épître de Jacques. Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Oui, nous faisons bien quand nous faisons du bien. Quand nous faisons du bien au prochain, nous faisons bien. Alors, il faut encourager ceux qui travaillent en ce sens et prier pour des vocations diaconales, dans le sens de vocations tournées vers les autres, au nom de ce deuxième commandement. Mais au-delà de l'impact direct qu'ont nos actes de compassion sur le prochain, nos actions touchent-elles la société ? Nos œuvres sociales peuvent-elles toucher la société et l'interpeller ? Et si la question se pose aujourd'hui, c'est sans doute que, beaucoup moins qu'à une certaine époque, les chrétiens impressionnent. La société est abreuvée de paroles et les diverses crises politiques que nous traversons ces dernières années et ces derniers mois prouvent que les paroles ne suffisent plus. Des actes sont attendus. Et l'évangile que nous proclamons est certes parole, mais aussi action. Et pour cela, je vous invite à un petit coup d'œil rapide dans l'histoire. Au Moyen-Âge, le Moyen-Âge fut assez riche de ces exemples d'innovation sociale, notamment avec les monastères et les couvents, avec la création et le développement d'hospices, d'hôpitaux, qui se sont répandus dans tout le monde chrétien. Au XIXe siècle, on a de magnifiques exemples d'hommes et de femmes qui ont marqué leur pays ou leur région, comme John Bost, qui fut le fondateur d'asile pour malades mentaux. Alors, si je vous projette leur portrait, c'est moins pour les mettre sur un piédestal que pour imprégner nos cerveaux qui sont faits de chair et d'os, comme nous. Henri Dunant, au XIXe siècle, l'inventeur de l'action humanitaire avec la Croix-Rouge. Louis-Lucien Rochat, fondateur de la Croix-Bleue. Et Catherine et William Booth, fondateurs de l'Armée du Salut. Et puis, plus récemment, des figures chrétiennes ont marqué le XXe siècle. Martin Luther King, que vous reconnaissez, qui a agi face à la ségrégation raciale qu'il rencontrait aux USA. Mère Teresa, auprès des démunis et des malades de Calcutta. L'abbé Pierre, auprès des sans-abri en France. Sœur Emmanuel, auprès des enfants en Égypte. Et le père Pedro, pour les pauvres à Madagascar. Aimer le prochain, pratiquer des actes de compassion ne peut laisser indifférent. Sans qu'il soit nécessairement explicite, le témoignage peut passer par l'action concrète. Le témoignage diaconal des chrétiens peut, en ce sens, influencer la société. Avec les attentats et l'islamisme radical, le monde est tenté de rejeter en bloc les religions. La société a soif d'authenticité, de vérité, et elle doute de ce qui n'est que parole. Jacques nous dit encore, « La religion pure et sans tache devant Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. » Il s'agit bien d'actes concrets et non de bavardages. L'Évangile doit être vu et compris par le monde comme la religion qui pousse les personnes à faire du bien, à accomplir des actes de compassion, à ouvrir les bras et les cœurs. Et en ces temps de défiance et de rejet, nos actes de compassion et nos œuvres sociales peuvent toucher la société et redonner une belle image du christianisme. La lignée de ces grands témoins de l'amour du prochain, du Moyen-Âge au XXe siècle, passe peut-être par notre Église. Encourageons ceux et celles qui, au nom du Christ, veulent aller de l'avant, au-devant d'une société souffrante et déboussolée, lui manifester sa compassion et lui tendre la main. Il y a encore aujourd'hui de la place pour les chrétiens et les églises qui veulent s'investir dans leur cité, leur département, leur région, et être, par leurs actes de compassion, celles et lumières. Le secteur professionnels du social et du médico-social manquent de personnel chrétien. Les formations à ces métiers sont pourtant facilement accessibles. Et de même, il manque cruellement de dirigeants chrétiens pour ces secteurs. Je vais m'écarter ici une dernière fois du texte de Patrick Pailleux pour aborder la question qui se posera inévitablement à chacun de nous, en particulier après cette semaine de prière. Qu'est-ce que Dieu attend de moi cette année? Et puisque c'est le thème de cette journée, dans le domaine de l'action sociale, concrètement. Qu'est-ce que Dieu attend de notre Église en tant qu'institution et en particulier de son association diaconale, l'ASB, concrètement, auprès de la population locale? Il ne s'agit pas de se lancer à tâtons dans une action sans l'avoir pesée, réfléchie, au risque d'être dépassée et de s'y trouver découragée. Il y a bien sûr des situations qui surgissent inopinément et auxquelles il faut faire face avec les moyens dont nous disposons sur le moment. Mais l'histoire d'Acte 9, l'histoire de Dorcas, voit une femme mettre en œuvre une action sociale consacrée et assidue. Notre action diaconale, l'ASB, s'inscrit dans ce schéma, notamment par la commission sociale qui nous a été présentée, par le ministère Jeunesse et le ministère Ouverture. Alors, où et comment trouver son action? Certainement, en premier lieu, bien entendu, dans la prière, à sonder la volonté de Dieu et à lui demander de nous ouvrir les yeux sur les besoins qui sont autour de nous. Puis ensuite, dans un état des lieux de notre personnalité, de nos dons, de nos moyens, on ne peut exiger de quiconque ce qu'il ne possède pas. Au boiteux de la porte qui se tient à la porte du temple, Pierre déclare « Je n'ai ni argent ni or ». C'est pourquoi il était sollicité. « Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Pierre n'avait pas d'argent à donner, dans le cas présent, heureusement. Mais il a donné tout ce qu'il avait appris et reçu de Jésus. Et au final, la guérison du boiteux a comblé ce dernier au-delà de toute attente. Qu'est-ce que Dieu nous a donné dans notre personnalité, dans les dons et dans les aptitudes dont il nous a équipés? Qu'est-ce qu'il nous a fait vivre dans notre expérience personnelle, dans notre formation, dont je peux faire bénéficier les autres? Même approche sur le plan collectif. Quelles sont les valeurs qui nous sont communes, qui peuvent influencer positivement notre environnement social? Quelles sont les personnes que Dieu nous a données, leurs dons, leurs aptitudes, leur expérience, leur formation, dont nous pouvons faire bénéficier les autres? Et d'abord, qui sont ces autres? Quel public viser? Sur quel terrain s'engager? Et là, le champ des possibles s'ouvre d'une manière qui n'est pas possible, pas envisageable de lister ici. La Bible, en particulier le Nouveau Testament, évoque de manière récurrente les pauvres. Et moi, je suis toujours ébranlé par cette parole où Jésus dit « En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. » Avec cette double signification, d'une part, nous ne manquerons malheureusement pas de pauvres à qui faire du bien. Mais aussi avec vous. Vous avez toujours les pauvres avec vous, c'est presque pour vous. Parce que c'est vers vous qu'ils se tourneront tout naturellement. C'est de vous qu'ils attendront quelque chose. Parce qu'il y aura en vous la marque de moi qui ai pris soin d'eux. Et si l'État et la société civile occidentale de ces tout derniers siècles, probablement sous l'influence chrétienne, ont su prendre en charge toute une part d'action sociale auprès des pauvres et des faibles en général, il ne faut pas oublier que l'Église a été le fer de lance et l'instigatrice au cours de la plupart des siècles qui ont précédé. Parfois maladroitement, comme le montre l'incident d'Acte 6 qui débouche sur la mise en place d'une stratégie visant à plus d'équité et de justice pour les bénéficiaires. Mais ce que révèle aussi cet incident, c'est que dès son origine, et la plupart du temps, l'Église s'est sentie concernée par les situations humaines tragiques qu'elle rencontrait. Malheureusement, d'une manière presque insidieuse, elle s'est comme laissée un peu dépossédée de cette mission auprès des plus faibles par un État qui, tout à coup, influencé par le bien social qu'elle pouvait faire, semblait plus efficace parce que répartissant la charge sur toute la société. Elle a été agitée en interne par un débat opposant nécessité de témoignage et nécessité d'action sociale, s'accusant mutuellement de brader l'un pour l'autre et réciproquement. Et donc aujourd'hui, quand on parle d'action sociale, il faut bien reconnaître qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre ni par quoi commencer. Où sont les vrais besoins ? Comment faire face à toutes les sollicitations légitimes qui ne manquent pas sans se disperser ? Quand on lit Acte 9, le passage qui nous sert de support, on est sidéré par la simplicité avec avec laquelle les choses semblent se passer. Et en fait, Dorcas semble répondre à un besoin qui lui a crevé les yeux depuis le jour où elle a décidé de regarder autour d'elle. On en revient toujours à ça, l'attention que je porte à mon prochain. Avec cette différence que mon prochain peut être mon voisin, mais aussi celui qui apparaît sur mon écran d'ordinateur ou de télévision. Et de là découle une multitude de possibilités d'action qui vont du don financier, comme nous y avons procédé ce matin à l'instant, à un don de sa personne en temps, en énergie, en travaux de toutes sortes, ou encore à l'émergence d'une action diaconale collective en Église. Une constante déjà caractérise l'action sociale qui est attendue du chrétien et de l'Église en général. Elle est toujours tournée vers le faible. Toujours. Moi, je suis toujours frappé par le sérieux avec lequel Paul prend la recommandation que lui font les apôtres de toujours se souvenir des pauvres, alors qu'il lui laisse par ailleurs le champ libre pour apporter l'Évangile aux non-juifs. L'action sociale chrétienne, qu'elle soit individuelle ou collective en Église, qu'elle soit financière ou en nature, est toujours orientée au profit de celui qui est en situation de faiblesse, quelle qu'elle soit. Même de la situation dont il pourrait en tout ou partie être responsable. Quand Jésus parle du prisonnier, on ne s'est pas concerté avec Anne-Marie, mais le texte qu'elle a lu, du prisonnier à qui il a été ou non rendu visite, hein, parmi d'autres, il ne précise pas s'il s'agissait d'un homme emprisonné à tort ou à raison. C'est un prisonnier, il est en situation de faiblesse. Quand Louis Russien Rochat, dont on a affiché le portrait, fonde la croix bleue, il ne s'attarde pas sur la responsabilité de celui dont l'alcool ravage la vie. Il voit l'homme ou la femme en situation de faiblesse et incapable de prendre seul le contrôle de sa vie sans une aide extérieure. Et la Bible évoque de multiples situations de faiblesse. L'étranger, attention, pas le touriste qui passe du bon temps dans notre pays. On est bien d'accord, on parle de l'étranger qui est contraint d'habiter chez nous, loin de chez lui, loin des siens parfois, et qu'aujourd'hui on appelle le migrant. Elle parle de l'orphelin, pas seulement celui dont les parents sont morts, mais celui dont les parents ne se sont pas occupés. Des malades, tous les malades sans distinction, y compris psy et sida. Ou encore des veuves, en particulier celles que Paul appelle les veuves vraiment veuves, c'est-à-dire sans ressources d'aucune sorte. Peut-être que dans ce cas, on trouvera aussi des veufs. Comme vous le voyez, notre société moderne n'est pas plus à court de produire des situations désespérées que ne l'était celle de notre texte. Nous n'aurons aucune difficulté, malheureusement, pour trouver des situations qui maltraitent les gens de notre temps et de notre ville. Les mouvements qui dénoncent depuis quelques années le harcèlement sexuel, les violences faites aux femmes, les violences conjugales nous font tout à coup mesurer l'ampleur insoupçonnée d'un préjudice subi par de nombreuses femmes et jeunes filles sans défense, parfois même parmi leurs plus proches. Alors que nous travaillons activement et légitimement à entrer enfin dans un nouveau bâtiment, je repense à des paroles entendues au tout début de notre démarche immobilière. Un grand bâtiment, oui, mais pas que pour nous. Aussi pour ceux du dehors. Des concepts ont circulé parmi nous. Église-hôpital, soutien scolaire. Et là, dans un an, nous y serons, probablement. Dans ce nouveau et grand local tant attendu. Un critère de choix, peut-être, notre action sociale. Qu'est-ce qui me révolte vraiment? Quelles sont ces situations dont l'existence me fait horreur? Il faut véritablement détester ce mal pour désirer contribuer à son éradication. Pardon. Il me semble discerner une autre constante chez les personnages dont nous avons chez les personnages que nous avons eus à l'écran. Chacun a eu en horreur le mal auquel il s'est attaqué. L'immense compassion qu'ils ont eue pour les victimes n'avait d'égal que la détestation du mal dont elles étaient l'objet. Et pour terminer, je rends la parole à Patrick Payeux pour la conclusion. Que notre investissement dans le diaconat et le service du prochain marque les esprits, comme ce fut le cas de Dorcas. Et que l'on puisse dire de nous ce qu'on disait de Paul et Silas. Ceux qui ont bouleversé le monde sont venus jusqu'ici.